Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Première Loge spéciale séries éliminatoires où on revient sur les matchs qui ont eu lieu dans la NCAA de hockey. Pour l'occasion, on a encore une fois deux, c'est moi, Dwayne Brink, votre animation de cet épisode. Et encore une fois, je suis accompagné d'un bon ami, Olivier Presgrelot. Oli, toujours en forme?
Toujours en forme, ça n'a pas changé. Je voulais mentionner avant qu'on commence ça qu'on a malheureusement failli à notre tâche, toute l'équipe de Première Loge, de faire l'épisode entre où est-ce qu'il y avait un seul match. Là, c'était il y a 3 jours, là, le match numéro 4, 3, match numéro 3, c'est ça, entre les Oilers et les Golden Knights. On a tout simplement manqué de temps et de disponibilité, malheureusement. Mais on s'excuse, puis on en parlera un peu quand on va parler du match Oilers de Golden Knights tantôt. Mais voilà, c'est ça. Mais quand même, on est content. On fait ça du mieux qu'on peut aux premières loges. Puis écoute, c'est une petite erreur qu'on essaiera de ne pas reproduire.
Ben oui, écoute, c'est des choses qui arrivent, mais on est toujours là quand même
Mais oui,
pour
exact.
amener du bon contenu. Puis écoute, on fait vraiment du mieux qu'on peut. C'est juste les disponibilités qui sont un peu plus difficiles pour tout le monde, c'est normal, là. Puis on a plus
Exactement.
d'école, on travaille, bref, on a des stages. C'est pas facile. Mais écoute, maintenant parlons de hockey. Pour l'occasion, on avait deux matchs quand même très intéressants dans l'Association de l'Est et l'Association de l'Ouest. Je vais commencer avec celle dans l'Est. C'était le fameux match numéro 4 entre les Panthers de Floride et les Maple Leafs de Toronto du côté de la Floride. Les Panthers de Floride avaient la possibilité de balayer les Maple Leafs de Toronto et c'était la possibilité pour les Panthers de rentrer à l'histoire puisqu'ils n'ont jamais remporté une série 4 à 0. Malheureusement, ils ont échoué en perdant le match numéro 4 par la marque de 2 à 1. Écoute, première période, pas de but. Puis, par la suite, la deuxième période, but important de la part d'un des quatre joueurs qu'on mentionnait qui n'avait pas encore marqué de but dans cette série-là. William Nylander marque son troisième but des séries éliminatoires pour offrir une avance de 1 à 0 au Maple Leafs de Toronto après deux périodes de jeu et par la suite. Vers la mi-de la troisième période, c'est un autre morceau important de Maple Leaf, Mitch Marner qui marque son troisième but des séries éliminatoires pour offrir une avance de 2 buts à Maple Leaf Toronto. Mais malheureusement, par la suite, 2 minutes plus tard, Sam Reinhart va réduire l'écart à un but grâce à son sixième but des séries éliminatoires. Mais malheureusement, pour les Panthers de la Floride, ils n'ont pas été capables de revenir dans la rencontre et de marquer avec le joueur à 6 contre 4. Puis, les Maple Leafs de Toronto l'emportent par la marque de 2 à 1 pour survivre et amener cette série-là à Toronto, mais perdre quand même 3-1 cette série-là. Donc, devra remporter leurs 2 prochains matchs pour essayer d'égaler cette série-là 3-3 pour par la suite remporter un match numéro 7, qu'est-ce qui serait quand même très historique. Ali? Premièrement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Puis, qu'est-ce qui explique cette finalement victoire des Maple Leafs de Toronto?
Écoute, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Ben, comme on en parlait tantôt, c'était dans l'autre épisode qu'on vient de faire parce qu'on les enregistre un à la suite de l'autre, que tu comprenais pas les Maple Leafs et leurs agissements dans cette série-là. Et je suis d'accord avec toi. Moi, les Leafs, comme je l'ai dit, dans le précédent épisode, je pensais qu'une fois qu'ils allaient remporter une première ronde, ils allaient être très difficilement arrêtables. Ils allaient jouer du hockey inspiré, dominant, comme ils étaient capables de le faire en saison régulière. C'est pas du tout ce qu'on a vu. Se sont fait. Ils ont été. Les Panthers ont mieux joué qu'eux. C'est tout simplement ça là, dans les précédents matchs. Et bon, dans le match numéro 3, ils sont venus très près. Mais quand même, les Panthers menaient 3-0 et ils le méritaient. Puis c'est ça, les Leafs. C'est décevant, honnêtement, qu'est-ce qu'on voit. Puis encore hier, ils ont gagné le match de justesse, mais je ne sentais pas un sentiment de désespoir si grand, si omniprésent. Tu sais, Austin Matthews ne fait pas la différence dans ces matchs, n'a pas fait la différence aucune fois dans cette série-là. Marner a marqué. Marner joue du hockey correct, mais prend des mauvaises décisions encore. J'ai pu l'observer dans le match hier, encore une fois. Tu as parlé de Nylander aussi, qui était tranquille. Tavares, pas grand-chose à signaler. Fait que, écoute, les Leafs ont du talent, fait qu'ils sont capables de s'en sortir, tu sais, avec puis, du talent et de la chance. Là, on s'entend que les débuts d'hier, il y avait beaucoup de chance là-dedans. Puis les Panthers qui ont manqué d'attaque un peu hier. Les Leafs se donnent défensivement, ça faut le dire. Là, ils ont 21 tirs bloqués. Ça, c'est une. Il faut le mentionner. C'est beaucoup de tirs bloqués. Et on se donne pour la défensivement. Mais au niveau de l'attaque, au niveau de créer quelque chose offensivement, même dans ce match-là, seulement 2 buts, seulement 25 tirs. Yes. Ça tend plus du côté des Leafs. Mm-hmm. Puis voilà, les gros canons qui, oui, il y en a 2 qui ont marqué dans le match d'hier, mais entre autres, Matthews, Tavares, je m'attendais à avoir du chien, à voir leur supériorité et comment ils sont des joueurs élites, à montrer qu'ils sont des joueurs élites, à montrer qu'ils sont capables de faire progresser les Leafs de Toronto, qu'ils sont capables et qu'une fois la malédiction de la ronde 1 vaincue, qu'ils soient capables de montrer qu'ils sont une équipe qui appartient au sommet de la Ligue nationale, mais ils ne le montrent pas dans cette série-là. Même encore hier, malgré la victoire, ceci dit, bravo aux Leafs. Ils ont gagné un match en deuxième ronde des séries. Ça aurait été très drôle de qu'ils se fassent balayer et qu'on ait pu continuer à rire d'eux en disant qu'ils n'ont jamais remporté de match de deuxième ronde, même après avoir gagné une ronde. Mais finalement, ils en ont gagné un. Après ça, est-ce que je pense qu'ils peuvent, compléter la remontée? Pas en jouant de cette façon-là, certainement pas. Si tu continues à jouer du hockey correct, moyen, comme ça, jusqu'à la fin des séries, les Panthers vont finir par gagner un match et être éliminés. Fait que je m'attends encore et je l'attends depuis le début des séries à voir cette marge de progression-là du côté des Leafs. Ça arrive toujours pas et j'ai de moins en moins d'espoir que ça arrive. Mais bon, c'est au moins 1 match sur 4 de gagner. Tout peut arriver. Tant que tu as encore envie, tout peut arriver, mais j'ai pas beaucoup de confiance.
Ben écoute, moi j'ai trouvé intéressant la tactique de Sheldon Keefe hier en disant que, ben en fait, en ralentissant le jeu puis en donnant peu d'occasions aux Panthers d'affaire dans la zone 1, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça a avantagé les Maple Leafs parce que, comme je t'ai dit, ils ont vraiment peu donné d'occasions de marquer, surtout dans l'enclave. Souvent les Panthers ont beaucoup de tirs, mais c'est souvent des tirs venus de l'extérieur ou d'un peu nulle part. Donc c'était difficile pour eux de marquer. Je pense surtout aux 2 premières périodes. Puis, Joseph Wall a été excellent, là, encore une fois, hier.
C'est vrai.
C'est ses premiers moments à séries éliminatoires. Puis, il se débrouille très, très bien pour l'instant. Ça va être lui aussi qui va être devant les filets pour les Maple Leafs pour le match numéro 5. Parce que, Samsonov est encore blessé. Fait qu'il ne devrait pas revenir pour au moins le match numéro 5.
Ouais, puis tu ne veux pas envoyer Matt Murray.
Puis, Matt Murray, pas avec les performances de Wall.
Ça fait peut-être des mois qu'il n'a pas joué, Murray. Là.
C'est ça. Puis, écoute, de toute façon, les Panthers sont dans une situation de do or die. So, ils peuvent pas se permettre de jongler avec les gardiens de but. La statistique de Sheldon Keefe était quand même très intéressante. Puis, encore une fois, comme tu l'as mentionné, puis écoute, tu n'étais pas là lors de l'épisode sur le match numéro 3, mais on en a parlé longuement, moi, Greg, Nick puis Fred, sur le fait qu'Austin Matthews s'est rendu problématique, le fait que genre il se présente pas. Puis l'affaire qui est encore plus flagrante qu'Austin Matthews, c'est que tu as l'impression qu'il s'en fout. Puis ça, c'est problématique. Parce que tu as vraiment l'impression que lui, il combat et qu'on gagne ou qu'on perd, c'est pas grave. J'ai mes statistiques. Puis,
j'aime pas les statistiques, c'est ça l'affaire.
Le problème, c'est qu'il produit pas. C'est malheureux, mais Austin Matthews ne produit pas ses résumatoires. Puis, il faut quand même le dire que l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat avant de finalement atteindre l'autonomie complète. Puis, est-ce que Toronto va décider de leur signer à long terme? Est-ce qu'ils vont décider de l'échanger? Il y a un an, si on m'avait posé la question, il y a un an, j'aurais dit, c'est automatique, tu re-signes Austin Matthews à long terme, puis tu vas all the way avec lui. Mais, cependant, avec ce qu'il propose dans ses séries éliminatoires, est-ce que ça peut être vraiment ton gars d'avenir? Je ne sais pas. Moi, je trouve que tu as été un peu sévère avec Mitch Marner. Moi, je trouve que oui, Mitch Marner a eu quelques petites erreurs, mais lui et Nylander étaient 2 joueurs qui s'est plus présentés, à mon avis, autre que Wall dans les playoffs.
Je suis d'accord qu'il joue bien, il joue beaucoup mieux que Matthew. Je suis d'accord qu'il se présente bien plus que Austin. Mais ça reste loin d'être parfait dans le jeu de Marner, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux que Matthew, je suis d'accord avec toi.
Oui, c'est ça aussi. Puis, Puis écoute, moi je pense qu'il serait temps de séparer le trio, la ligne de Matthews puis Marner. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu mets Marner avec Matthews? Marner est tellement bon qu'il serait bon pour jouer avec n'importe qui sur cet alignement-là. Donc tu pourrais peut-être faire jouer avec O'Reilly, peut-être faire jouer avec Tavares. Puis
Matthews avec quelqu'un d'autre. Je serais intéressé de voir Matthews avec O'Reilly. Je pense que ça pourrait être une bonne dynamique sur un trio. Puis Marner avec Tavares, ça a déjà bien marché par le passé. Ouais. Je trouvais que ce serait intéressant. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, en même temps, on n'est pas Sheldon Keefe, donc on va voir ce qui va se passer. Mais, écoute, je pense que les Panthers aussi, peut-être que c'est ça, vu que Toronto a bien joué défensivement, peut-être qu'il a manqué d'opportunisme, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu créer l'égalité en fin de rencontre hier, puis malheureusement, ils n'ont pas été capables de saisir les opportunités. Puis, j'ai hâte de voir le match numéro 5, vraiment. Là, on a eu, pour la première fois dans cette série-là, on a vraiment eu le trio de Matthew Tkachuk qui était très tranquille, là, Tkachuk, Sam Bennett, puis Nick Cousins. Malgré que Sam Bennett a eu quand même des bonnes occasions de marquer dans cette rencontre-là. Puis les deux ont obtenu des passes, Tkachuk et Bennett, sur le but en avantage numérique de Reinhardt. Mais ça reste que ils ont été très tranquilles pour le match numéro 4. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir le match numéro 5. Si MP et Toronto vont continuer à jouer le même style de jeu. Puis s'ils continuent à jouer ce même style de jeu-là, peut-être qu'ils vont l'avantager, mais j'ai l'impression qu'ils vont finir par craquer. Puis si les Panthers. Faut juste pas que les Panthers marquent le premier but. Moi, c'est vraiment ça la clé pour Toronto. S'ils ne marquent pas le premier but, puis que Toronto marque le premier but, normalement, ils devraient se sortir. Mais si la Ferrari marque dès le départ, je pense que c'est le match est terminé. Malgré que Toronto nous a souvent surpris lors du match numéro 2, on a pris une avance de 2 buts. Après 5 minutes de jeu, on a perdu la rencontre. Lors du match numéro 3, on a pris devant tout en première période, on a pris devant également en deuxième période, puis on trouvait un moyen de perdre le match aussi. Donc, on ne sait jamais avec cette équipe-là, mais moi, j'ai vraiment l'impression que le match numéro 5 va être très difficile parce que si Toronto gagne le match numéro 5, écoute, on aura peut-être le droit à une vraie série. Donc, ça reste intéressant, mais honnêtement, je suis vraiment surpris que la série va plus loin que 5. Là.
Écoute, je pense que ça pourrait changer bien des choses si ils apportent ça à 3-2. Là, à 3-2, ça commence à être du sérieux. Mais ouais, très bon point que tu as apporté là, du jeu des Leafs qui ont temporisé, qui ont ralenti le rythme des Panthers. Parce que les Panthers, il faut leur donner, ils ont un style de jeu qui marche très bien en série éliminatoire, qui fonctionne très bien contre les Leafs aussi. C'est agressif en échec avant avec des joueurs qui sont très gossants pour l'adversaire, Matthew Tkachuk. Est probablement le meilleur dans la Ligue nationale pour ça. Donc, ouais, les Panthers, leur style de jeu a été. Ça a été plus difficile de le mettre en application dans le dernier match, comme tu l'as dit. Puis, Joseph Hull, très bon point que tu as apporté, mais en fait, de gros arrêts hier, là, honnêtement. Là, tu l'as dit, là, si ce n'est pas le meilleur joueur du côté des Leafs hier, c'est l'un des meilleurs. Peut-être que c'est la chance du débutant un peu de son côté, on l'espère pas pour les Leafs, mais c'est déjà arrivé que les jeunes goalers comme ça qui débutent en série aient un très bon départ, puis ça soit plus difficile par la suite. Ça va être à voir, ouais. Mais les Panthers, je pense, ont encore, tu sais, Matthew Tkachuk l'a dit, on ressent pas de pression, puis je pense que pour le moment, ils n'ont pas à en ressentir tant que ça. S'ils sont encore capables d'imposer leur style de jeu, mais tu sais, même dans le dernier match, même si ça a mieux été pour les Leafs, les Panthers n'étaient pas loin. Donc, je pense que avec d'autres circonstances, ça peut virer de leur côté dès le match numéro 5. Donc, à suivre. Match numéro 5.
Match numéro 5 va avoir lieu, je pense, vendredi soir. Du côté de Toronto. Donc, ça va être quelque chose qu'on va clairement suivre. Puis, dernier point aussi que je voulais rajouter avant qu'on va du côté de l'Ouest. Moi, j'ai hâte de voir si Matthew Nice va être de retour pour le match numéro 5 parce que ça a l'air qu'il s'en a mieux en mieux, puis il attend juste le feu vert des médecins. Donc, écoute, si Matthew Nice revient pour les Maple Leafs de Toronto, ça pourrait faire une différence pour les Leafs parce que c'était un peu la bougie d'allumage des Maple Leafs de Toronto.
Ouais, honnêtement, oui.
Moi, je trouve ça va être à surveiller. Là.
Je pense, très d'accord avec toi, je pense qu'il pourrait solidement aider l'attaque des Leafs. Puis avant qu'on passe au prochain, question pour toi, est-ce que si Nice réintègre l'alignement, tu le mets dans le top 6 et tu descends Bunting sur la troisième ligne ou tu mets Nice sur la troisième?
Non, c'est on l'a vu lors de la série contre Toronto. Pour moi, c'est contre, je veux dire, contre Tampa Bay. Puis même au début de lors du premier match, si, non, Mathieu Nice, si tu le mets sur la première ligne, ben pas sur la première ligne, mais que tu mets sur une
Dans le
des
top
deux
6.
premières lignes, sur
Ouais.
top 6, à place de Bunting, écoute, mais pas, ils vont être capables
Parce
de
que les deux ont le
gagner
même
une
rôle,
série
c'est les deux
sans.
qui interchangent là.
Moi, c'est ça, mais de toute façon, Mathieu Nice fait partie de ton avenir. Michael Bunting, non. Donc, puis Mathieu Bunting est remplaçable, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'instant de Mathieu Nice, ou en tout cas pour dans cette série-là. Donc, non, moi je pense qu'il serait intelligent de mettre Mathieu Nice sur une des deux premières lignes.
Ouais,
Puis,
c'est vrai qu'il faisait
écoute,
très bien
peut-être
dans le top.
tu jumelles avec qui après ça? Est-ce que tu jumelles avec Tavares? Est-ce que tu jumelles avec Matthews?
Mais
C'est
moi,
là que
comme je
ça va
t'ai
être
dit,
intéressant.
une ligne O'Reilly, Nice, Matthews, quelque chose comme ça, je pense que ça serait intéressant.
Ouais, c'est vrai. Puis tu pourrais mettre Marner avec Tavares, puis
Puis Nylander, ouais.
Nylander. Ou peut-être qu'on l'a vu hier, Nylander qui par moment joue des minutes avec le troisième ou le quatrième trio. Donc, est-ce que tu vas faire descendre William Nylander à sa troisième ligne, puis garder Bunting avec Tavares et Marner? T'sais? C'est aussi une autre question
Oui,
qu'on peut se
c'est
poser.
vrai, c'est vrai.
Donc, écoute, il y a plusieurs options qui sont envisageables du côté des Leafs. Puis écoute, les Maple Leafs n'ont pas le choix de prendre des risques. Ils perdent 3-1 cette série-là. Ils perdent 3-0. Donc, ils n'ont pas le choix. Là, ils sont obligés de gagner dommage. Donc, c'est le meilleur moment pour prendre des risques. Puis, écoute, ils n'ont rien à perdre
Puis
parce
Mathieu
que
Nice, c'est pas un gros risque, là, on
c'est
s'entend.
ça, exactement. C'est pas un gros risque. Puis, au point où ils sont rendus dans cette série-là, personne ne s'attend à ce qu'ils remontent. Donc, ils peuvent prendre des risques, peuvent prendre des décisions qui peuvent devenir payantes. Donc, moi, je suis ouvert pour revoir Nice sur le top 6, là. Clairement. Là.
Moi aussi.
Fait que, ouais, écoute, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Bon, maintenant, allons du côté de l'Ouest. C'était le match numéro 4 aussi dans l'autre série qui avait lieu mercredi soir, celle entre les Golden Knights et les Oilers de Edmonton du côté d'Edmonton. Bon, les Golden Knights menaient 2-1 dans cette série-là après une victoire convaincante de 5-1 du côté d'Edmonton. Avaient la possibilité d'amener cette série-là à 3-1 pour retourner à Vegas, puis peut-être là, ça aurait pu être différent, mais malheureusement pour les Golden Knights, les Oilers de Edmonton ont été présents et ont pris le contrôle de cette rencontre-là très rapidement en prenant les devants 3-0 après la première période, grâce à Nick Bjugstad qui a marqué son troisième but des séries, Evan Bouchard qui a marqué un avantage numérique, et Mathias Ekholm, la nouvelle acquisition des Oilers de Edmonton, qui marque son premier but des séries éliminatoires. Par la suite, les Oilers ont accentué leur avance à 4-0 grâce au premier but officiellement des séries éliminatoires de Ryan Nugent-Hopkins, qui marquait pour la première fois dans ces éliminatoires-là. Et par la suite, en troisième période, Nicolas Roy a réduit l'écart à 3 buts, mais il était trop tard pour les Golden Knights. Les Oilers créent égalité 2-2 dans cette série-là. Et cette série-là va retourner du côté de Vegas pour un match numéro 5 qui va avoir lieu vendredi soir à 10h. Ali, bon, comme j'avais mentionné lors d'un épisode, cette série-là, je la comprends pas dû au fait qu'il y a un changement de momentum drastique, que ce soit du côté de Vegas ou du côté des Oilers. En fait, explique-moi pourquoi les Oilers ont autant dominé lors du match numéro 3, puis alors qu'au match numéro. Non, attends une seconde, je vais répéter ça. Bon, au match numéro 4, ils ont complètement dominé les Golden Knights, alors qu'au match numéro 3, c'était l'opposé.
Ben écoute, j'ai pas la grande réponse à ça. Ben, ce que j'en pense, c'est que un peu comme les Stars, les Oilers, ben, c'est encore plus évident du côté des Oilers, je trouve, le manque de constance là, depuis des années. On a des matchs où est-ce qu'on peut être dans le tapis et tout fonctionne, puis il y a des matchs où c'est plus difficile, puis ça donne des résultats comme le match numéro 3. Puis ce qui est intéressant de mon côté avec le match entre les Oilers et les Golden Knights, c'est que je l'ai suivi de très près hier. Là, c'est moi qui faisais l'article pour. Pour ce match-là, donc je l'updatais et tout, et je le suivais de très près. J'écrivais plus que je le regardais, mais quand même, je devais le suivre attentionnément. Puis, écoute, ce que j'ai remarqué, là, c'est que non seulement le 5 contre 5 du côté des Oilers a marché, on a produit 3 buts. Pardonnez-moi. Et aussi, c'est qu'on a été capable d'installer notre rythme très aisément là, avec en obtenant 6 avantages numériques. Puis écoute, quand tu es les Golden Knights de Las Vegas, c'est vraiment pas une bonne idée de donner 6 avantages numériques aux Oilers. Ils en ont converti seulement un, mais ça leur permet d'acquérir du momentum même à ça. Autre chose, c'est les éléments de profondeur qui ont très bien joué hier. Je pense à Nick Bjugstad et Klim Kostin, entre autres, qui ont joué du gros hockey là, au niveau de mise en échec, la présence physique. Bjugstad a marqué, Kostin a obtenu une passe sur le premier du match. Donc, non seulement ils ont fourni le premier but du match, mais ils ont été dans la face des Golden Knights jusqu'à la toute fin de la rencontre avec voilà, leur présence physique, la robustesse. Puis McDavid a été remué en zone adverse, a obtenu seulement 2 passes, mais ça reste très bon de 2 passes quand même. Puis il a bien joué, là. Il a eu beaucoup de temps de possession avec la rondelle en zone adverse, de bonnes entrées de zone intéressantes. Mm-hmm. Fait qu'on, le McDavid qu'on veut voir. Draisaitl plus tranquille, mais encore une fois, c'est ça la richesse avec l'effectif des Oilers. Quand tu as un McDavid qui se présente ou la profondeur qui se présente, ben Draisaitl n'a même pas tant besoin de se présenter. Et même si on dit qu'il ne s'est pas tant présenté, il a quand même obtenu une passe, une belle passe sur le boulet de canon de Mathias Ekholm. Puis ouais. Evan Bouchard qui a repris ou l'avait laissé, je pense que c'était son 15e point dans ces séries-là. Oui,
il est extraordinaire, Evan Bouchard.
C'est fou, l'avantage numérique, là, c'est vraiment... Et l'avantage numérique est coulé dans le béton pour les prochaines années là, du côté des Oilers avec Bouchard à la pointe de tout ça. Un boulet de canon lui aussi. Puis Ryan Nugent-Hopkins, ça fait beaucoup de bien pour les Oilers et pour lui-même de marquer, lui, parce qu'il n'avait pas encore obtenu de but dans ces séries-là. Un beau tir, une autre belle construction de jeu de la part des Oilers sur une passe de qui? De McDavid qui a fait un autre beau jeu sur ce but-là. Fait que, pour répondre à ta question... Écoute, je ne sais pas. Je pense que le mot, c'est encore une fois, c'est constant. C'est que les Oilers ne sont pas capables de reproduire ça à chaque match. Mm-hmm. Puis les Golden Knights, quand les Oilers ne le font pas, sont capables de ressortir du lot. Puis c'est une énigme aussi, les Golden Knights. J'ai de la misère à comprendre. Tu sais, ils ont été ils ont été très bons toute l'année. Mais qu'est-ce qui est vraiment la clé de leur succès, surtout quand Stone était blessé? Tu sais, ils ont continué à avoir du succès. Puis là, ben des fois, ça va de leur bord, puis des fois, non. C'est une énigme un peu, je trouve, aussi, les Golden Knights dans cette série-là. Puis, mais voilà, pour les Oilers, je pense que c'est la constance. Et 5 contre 5, quand tu es capable de marquer à 5 contre 5, et quand en plus tu reçois plein d'avantages numériques, et c'est difficile de ne pas perdre un match quand il y a les Oilers Edmonton et que tu as ces circonstances-là.
Exactement. Puis, du côté de Golden Knights, deux choses. La première, le fait déjà qu'il y a leurs deux gardiens de but numéro 1 qui soient blessés. Ouais. Déjà, même le 3 techniquement, parce que tu as commencé l'année sans Robin Lehner, qui est ton gardien numéro 1 à la base. Après ça, Logan Thompson qui est blessé. Là, tu as Laurent Brossard qui s'est blessé au match numéro 3. Là, tu te retrouves avec Adam Hill et Jonathan Quick. Comme tandem pour les Golden Knights, c'est très difficile de t'en sortir. Puis l'autre affaire aussi, là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, puis il faut faire revenir là-dessus, mais le coup de bâton dangereux d'Alex Pietrangelo en fin de rencontre sur Draisaitl, moi, honnêtement, je m'attends à une suspension de la part de Pietrangelo. Je ne sais pas ce que ça passe, mais moi, j'ai trouvé ça dangereux et gratuit. C'est quoi? Moi, c'est ça, je ne comprends pas à quoi ça servait de donner un coup de bâton de la sorte de Draisaitl. Ça servait à rien de la part de Pietrangelo. Pour moi, c'est une crampe au cerveau, là.
Je suis d'accord que c'est violent, totalement inutile. Ça, imagine si le bâton avait touché le visage de Draisaitl, comment ça aurait pu être grave. Par chance, ça ne l'a pas touché, mais c'était très d'accord avec toi, ça mérite une suspension. La seule chose, c'est que Dumba n'a pas eu de suspension pour son geste. On a vu d'autres gestes qui n'ont pas été punis dans les séries éliminatoires, que les joueurs n'ont pas été suspendus. Ça se peut qu'on l'évite à celle-ci, mais en même temps, c'est plus le genre de jeu que c'est indéniable qu'il y ait une suspension. C'est moins, il y a moins de zones grises comme avec le geste de Trouba ou le geste de Dumba. Donc, je m'attends aussi à une suspension. Là. Je pense que McCarr, pour son indiscipline avec McCann, avait eu un match. Fait que je m'attends à un ou deux matchs encore pour Pietrangelo. Puis Pietrangelo, c'est vraiment c'est un coup de cochon en fin de match. Mais chez Theodore aussi, quel mauvais match de sa part. des revirements. Donc, c'est lui qui cause le premier but là, parce qu'il se fait presser par Bjugstad et Costin. Deux pénalités, dont une qui a offert le but à Bouchard. Des erreurs tout le long du match. Honnêtement, chez Théodore, très mauvais match. Un défenseur qui a du talent offensif, que j'aime bien, mais depuis cette année, même je dirais l'an passé, il y a 2 ans, j'étais prêt à dire qu'il était parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Dans les 2 dernières années, ce n'est vraiment pas le cas. Puis en série, il n'est plus lui-même. Bien, en tout cas, dans ce match, dans le match d'hier, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de sa part. Puis le point positif du côté des Golden Knights, c'est que Nicolas Roy a marqué son premier des séries et c'était tout un but, il faut le dire. Ouais. Mais à part de ça, il y a très peu de positif à le dire. Tu parlais des goalers. J'avais complètement oublié que Robin Lehner existait parmi les Golden Knights, mais c'est vrai, à la base, s'il n'est pas blessé, ben c'est lui qui est numéro 1. Mais là, Thompson blessé, comme tu l'as dit, et Brossois blessé. Aiden Hill, moi, personnellement, je serais allé avec Jonathan Quick. Là. Il a plus d'expérience.
Un homme de série, en plus.
Oui, c'est ça, un homme de série. Aiden Hill, aucune expérience en série. Je ne comprends pas le choix de Cassidy d'y aller avec Aiden Hill. Moi, pour moi, c'est Jonathan Quick qui devrait être dans les buts, qui aurait dû être dans les buts la partie précédente. Et dans le prochain match, on va voir ça va être quoi son choix, mais pour moi, tu es bien plus en confiance avec Quick dans les buts qu'avec Aiden Hill.
Tu sais, pour expliquer un peu tranquillement cette décision-là, bon, c'est très difficile pour nous parce qu'on n'est pas dans le vestiaire des Golden Knights, on ne connaît pas la forme des joueurs, mais j'anticipe que peut-être que Adam Hill était plus en forme que Jonathan Quick, puis il est difficile de lui faire confiance. Donc, moi, ce serait la seule raison qui expliquerait pourquoi Bruce Cassidy a décidé de prendre Adam Hill à la place de Jonathan Quick, qui, il faut le rappeler aux gens, est un joueur d'expérience, a déjà rapporté à Conn Smythe, a gagné 2 Coupes Stanley avec les Kings, a été excellent en 2018, a été excellent, quand même eu des bons flashs l'an dernier aussi avec les Kings.
Ouais. C'est
pas mauvais Gazembe, bon, c'est un vétéran qui est en fin de carrière, mais quand même, ce serait intéressant de voir ce qui va se passer. Écoute, comme je t'ai dit, je serais pas surpris, puis encore une fois, c'est pour ça que je trouve que cette série-là, elle est vraiment illogique sur toute la ligne. C'est que j'ai vraiment l'impression que si les Oilers ne marquent pas dès le départ, Vegas va marquer le but, puis là, boum, ils vont gagner genre 6-2. Genre, ça, quand même,
mais l'affaire avec ça, c'est que ça s'est quasiment produit dans le match numéro 1, puis ça s'est produit contre les Kings. Du côté des Oilers, les Oilers sont capables de revenir d'une arrière, quand ils tirent de l'arrière, de 2 ou même peut-être 3-0.
Ils ont le potentiel. Surtout qu'ils ont des avantages numériques.
Quoi?
Surtout qu'ils ont des avantages numériques. Surtout, ça aide.
Ce que les Golden Knights ne sont pas capables de faire, en tout cas, ils ne l'ont pas démontré dans le match d'hier. Là, ils ont été proches de remonter. Là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la différence entre les deux équipes. C'est le punch offensif qui peut arriver de nulle part du côté des Oilers dès que tu leur donnes une mini-occasion avec les joueurs de talent qu'ils ont. Mais ouais, je favorise encore les Oilers dans cette série-là, tout simplement pour l'attaque. Mais c'est une série qui est difficile à comprendre, à saisir, si je pourrais emprunter l'expression.
Ouais, parce que, tu sais, des fois, par moment, tu regardes les Oilers, tu te dis, OK, c'est même pas proche, les Oilers devraient remporter facilement cette série-là. Puis là, par la suite, on a des difficultés dans la zone, encore beaucoup de revirements.
Puis les Golden Knights ont terminé, je pense, premier de l'Association de l'Ouest cette année. Là. Deuxième derrière l'Avalanche. Ouais. C'est deuxième derrière l'Avalanche. Fait que même si ils sont pas l'équipe la plus emballante quand tu le regardes sur papier, ça fonctionne très bien. Puis ils ont eu du succès toute l'année, assez pour finir deuxième de l'Ouest. Fait que d'une manière ou d'une autre, ils sont capables d'avoir du succès. Fait que c'est ça, mais ça reste que quand tu regardes les Oilers, tu dis ils sont censés être capables de passer au travail des Golden Knights tant qu'à moi.
Mm-hmm. Puis écoute, vraiment d'avoir si Pietrangelo est blessé, suspendu pour la prochaine rencontre, parce que si c'est le cas, tu te ramasses déjà que tes gardiens sont blessés. Puis là, en plus, tu vas tomber à des fois qui va être pas là. T'as chez Théodore qui va pas très bien. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe de Vegas. Sont à domicile, heureusement. Fait que ça devrait aider. Mais
c'est vrai qu'ils ont du succès à domicile.
Puis pourtant hier, ça n'a pas tant apparu aussi, mais moi j'en avais parlé lors du match numéro 1, je crois. Mais le travail quand même remarquable du duo de Nicholas Hague et de Zach Whitecloud.
C'est vrai.
Eux, ils ont été bons depuis le début de cette série. Puis hier, ça a moins bien paru. Donc,
il s'est battu avec Nurse en fin de rencontre. Échange de coups de poing.
Ouais, c'est. Je pense juste que c'était un match difficile pour les Golden Knights.
Ouais, il y avait la frustration.
Il fallait qu'ils vident leur frustration. Puis malheureusement, ils n'ont pas vidé de la meilleure des façons. Egg, puis Darren Nurse, c'est correct, là, vu que c'est une bagarre. Puis c'est normal. Ouais. Mais
Pietrangelo, c'est des gestes que tu ne veux pas voir. Puis,
non, c'était juste.
Si tu es frappe ton bâton, ça bande pas sur Liam.
Non, mais en plus, c'est sur Draisaitl. Puis même là, je trouve que Pietrangelo a été chanceux qu'il n'y avait pas Evander Kane ou Darnell Nurse sur la patinoire, parce que là, ça aurait pu. Vincent Dernais.
T'as Connor McDavid qui est allé voir.
C'est Connor McDavid, là. Fait que t'es comme McDavid, c'est pas super. Puis c'est normal aussi, c'est pas son rôle. Ouais. Mais malgré que je suis des premiers avec Matthews, là, mais ça.
C'est ça, mais tu sais, on parlait du chien de Matthews, que Matthews n'avait pas. McDavid, c'est peut-être pas se battre, mais il en a montré bien plus que Matthews en a montré dans tout son parcours éliminatoire en carrière, j'ai envie de dire. Là. Puis là, je veux pas dire que Matthews doit se battre, c'est pas ça le point. Je dis juste qu'on voit plus de caractère du côté de McDavid que du côté de Matthews.
Mm-hmm. Et pourtant, McDavid, c'est pas. Au niveau personnalité, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup.
C'est ça, tu vois.
C'est quelqu'un qui va parler par son talent, parce que c'est le meilleur joueur dans l'Angleterre d'hockey, mais. C'est pas une grande bouche.
Mais il en démontre quand il est capable de faire sentir sa présence dans des moments comme ça, ce que Matthews ne fait pas. Là.
Moi, tu sais quoi? Matthews va faire. Je vais finir là-dessus. Matthews, honnêtement, là, plus je le vois, plus son comportement me fait penser à Petrie un peu. Plus ça avance. Il y a un niveau de s'en foutisse de la part de Matthews que je suis comme waouh, genre.
Mais tu sais, il doit pas s'en foutre intérieurement, mais c'est ça qui dégage. Là.
C'est ça. Mais écoute, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer au match numéro 5. Cette série-là, elle est tellement ouverte que genre.
J'ai l'impression que ça peut se passer, j'ai l'impression, même si je donne l'avantage aux Oilers.
Moi aussi, je donne l'avantage aux Oilers de Edmonton. Je pense que s'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait lors du match numéro 2 ou 4, puis qu'ils sont capables de marquer très tôt dans la rencontre. On sait que Vegas ne sont pas capables de remonter, donc ça va être intéressant. Moi, je pense que si les Oilers continuent sur cette séquence-là, normalement, ça devrait être une question de temps avant qu'ils battent Vegas, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Encore une fois, c'est une autre série que je peux voir à la limite dans l'Ouest, donc ça va être hyper intéressant de voir ce qui va se passer dans la série Golden Knights Oilers. Sur ça, c'est qui complète cet autre épisode de Première Loge. Merci, Ali, d'avoir claqué deux épisodes back-à-back avec moi.
C'est vraiment un grand plaisir, d'où toujours là.
Pour ça. Oui, puis aux gens à la maison, merci beaucoup de nous écouter. Puis on se voit très bientôt pour encore une fois parler de hockey pour un autre épisode de Première Loge. Au nom de toute l'équipe, je suis Douali Ibrahim et on se voit très bientôt pour un autre épisode de Première Loge. Salut tout le monde.